Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Dans le complot contre l'Amérique publié en 2004, l'écrivain américain Philip Roth imaginait les États-Unis tomber aux mains d'un dirigeant fasciste. Cette dystopie se déroulait dans les années 40. Dans ce livre, l'aviateur Charles Lindbergh est élu à la Maison-Blanche à la place de Roosevelt. Fin octobre, des millions d'Américains ont manifesté contre Donald Trump, un mouvement baptisé No Kings. Ils protestent contre la politique du président américain et sa prise de pouvoir autoritaire. Alors, Philip Roth a-t-il prédit l'avenir dans son roman ? Le président américain est-il un dirigeant fasciste, comme l'affirment ses opposants ? Est-il en train de faire basculer les États-Unis vers un régime autoritaire ? Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Henri.
Bonjour Loïc.
Alors Henri Vernet, rappelons d'abord quelques faits. Donald Trump a limogé de nombreuses personnes au sein de l'administration. Il a déployé la garde nationale pour réprimer des manifestations. Sa politique a conduit à des pressions sur l'université, les médias publics ou encore au licenciement massif de fonctionnaires. Il a une politique agressive vis-à-vis des immigrés. Il a demandé un redécoupage électoral au Texas avant les élections de la mi-mandat. Alors Henri, peut-on parler d'une dérive autoritaire de la part du président des États-Unis ?
On peut indéniablement parler d'une tentation autoritaire chez lui. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'à deux reprises au moins, il a employé le mot dictateur. Un jour, c'était pendant la campagne présidentielle, il avait dit que ça lui plairait d'être dictateur pour un jour, tout en disant qu'il n'en avait en réalité aucunement l'intention. Et puis, plus récemment, il a rappelé que les Américains eux-mêmes, selon lui, alors il s'appuyait sur je ne sais quel sondage, demandent, seraient friands d'un dictateur, ce qu'évidemment, il ne voulait pas être. Donc, il s'emploie aussi à démentir le terme. Mais une tentation autoritaire, c'est très évident. On le voit par exemple sur des symptômes assez précis, c'est-à-dire que Donald Trump, depuis qu'il est donc revenu à la Maison-Blanche, il n'a de cesse que d'étendre le champ du pouvoir présidentiel, du pouvoir exécutif. Ça, c'est un constat tout à fait objectif. Deuxièmement, il y a chez lui aussi la tentation de politiser l'administration. Il n'est qu'à voir ces purges massives qu'il a entraînées dans en plus des agences aussi importantes pour les États-Unis que la CIA, que le FBI. Il y a eu évidemment, vous savez, l'éphémère ministère de la découpe en règle de l'administration, le DOGE, le département de rationalisation en quelque sorte d'une administration américaine qui elle aussi est assez pléthorique. Et tout cela sous l'égide d'Elon Musk, qui venait un peu comme un Milley argentin avec sa tronçonneuse et qui a vraiment viré à tour de bras des centaines et des centaines d'agents de l'État, d'agents fédéraux américains par simple mail de manière assez traumatisante. Et puis, le troisième symptôme, c'est cette politique systématique d'intimidation, d'imposer la crainte de la part de Trump et de ses séides, de ceux qui sont autour de lui à la Maison-Blanche. Et ça vise à peu près tout le monde, y compris, vous avez cité les médias, que ce soit d'ailleurs les médias privés. Ils ne se privent pas de désigner à la vindicte, d'appeler à la vindicte contre tel présentateur qui ne lui plaît pas. Et ce qui est d'ailleurs frappant, c'est de voir que c'est instauré une forme d'autocensure, puisque des médias extrêmement importants, comme les grands networks américains, eh bien, ont parfois tout simplement limogé la personnalité qui ne plaisait pas à Trump. Donc il y a un climat, un véritable climat d'intimidation et de peur qui s'est installé en effet aux États-Unis. Ça, c'est réel.
Henri Vernet, est-ce qu'on peut dire un mot du redécoupage électoral au Texas ?
Oui, c'est très significatif et ça traduit cette volonté de tout contrôler de la part de Trump. Donc le champ exécutif et évidemment, c'est-à-dire de mettre en cause ce qui est fondamental aux États-Unis, vous savez, c'est le fameux check and balance, c'est-à-dire d'un côté l'État et de l'autre les contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs, c'est quoi ? Il y a l'État, donc Washington, et les États fédérés, mais ce sont évidemment les contre-pouvoirs que sont le parlementarisme, l'institution parlementaire et le pouvoir judiciaire et puis le pouvoir de la presse dont on a un petit peu parlé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au Texas ? C'est que Trump a fait pression sur les élus républicains qui sont majoritaires dans cet État au Texas pour qu'ils procèdent à un redécoupage électoral de manière à avoir des circonscriptions électorales plus favorable et de manière très objective. Il l'a dit lui-même, Trump a gagné 5 élus MAGA, donc Make America Great Again, hein, son fameux mantra, aux prochaines midterms, les élections intermédiaires qui auront lieu en novembre 2026. Alors, le Texas, il faut savoir qu'il a 38 représentants à la Chambre des représentants, hein, donc l'autre chambre américaine. Et sur ces 38, 25 sont républicains, donc une majorité, et ils ont réussi à faire passer ce redécoupage au mois d'août dernier. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Bah parce que aujourd'hui, les républicains à la Chambre des représentants, donc au Congrès, ils ont une majorité très maigre. On sait que de manière assez générale, les élections intermédiaires, les midterms, sont plutôt défavorables au pouvoir présidentiel. Un petit peu comme chez nous en France, la dissolution a été une claque pour le pouvoir d'Emmanuel Macron. Et donc, pour espérer pouvoir vraiment garder sa majorité, il a envie, Trump, d'avoir des élus assurés. Donc, d'où ce redécoupage qui est passé et, en gros, qui lui assure... Alors, il faut jamais être prédictif en matière d'élection dans ce qui reste, malgré tout, une démocratie. Néanmoins, il pourrait avoir ses 5 sièges supplémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, eh bien, les démocrates, quand même, qui commencent à relever la tête au bout de presque un nom de Trump au pouvoir, ils sont en train d'essayer d'organiser la même chose dans les États qu'eux-mêmes contrôlent, notamment la Californie. Et début novembre, il va y avoir un référendum en Californie, donc l'État qui a le plus d'électeurs hein, aux États-Unis, pour autoriser les élus à en faire de même. Il faut simplement juste remarquer que dans tous les États qui sont à pouvoir démocrate, les règles pour pouvoir comme ça jouer ainsi avec les découpages électoraux, elles sont beaucoup plus strictes que dans les États détenus par les républicains. Donc ce que les Texans ont fait, il n'est pas absolument sûr que les Californiens et puis d'autres après, l'Illinois a aussi tenté par ça, le puissent. Juste un dernier mot si vous permettez là-dessus. J'étais à New York il y a quelques semaines à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'ONU et en marge de tout cela, j'ai entendu alors un élu, ce sont des rumeurs, ce sont des, pour l'instant rien évidemment. Mais rien n'est évidemment certain. Il y a une espèce de petite musique. Certains se demandent si Trump n'aurait pas envie de déplacer, de reporter les prochaines midterms, justement. Alors, ce n'est vraiment qu'une rumeur, comme il y en a dans ce climat actuel aux États-Unis, comme il y en a énormément. Mais enfin, ça s'appuyait sur tous les, bah justement, cette façon de jouer un peu avec les institutions, de redécouper. Et surtout, ça s'appuyait sur la manière dont il déploie la garde nationale, donc les militaires, pour faire de l'ordre public. Il l'a fait à Washington, il l'a fait auparavant à Los Angeles, il pourrait le faire dans d'autres villes, on a parlé de Chicago. Donc il y a cette ambiance-là qui engendre 1000 petites rumeurs dont on espère qu'elles ne seront que rumeurs.
Henri Vernet, les États-Unis sont nés d'une révolution qui a précédé la Révolution française. Les pères fondateurs étaient acquis aux idées des Lumières et chérissaient des principes comme la liberté et l'égalité. Est-ce qu'on est en train d'assister à une contre-révolution, comme l'affirment certains détracteurs de Donald Trump ?
Bon, ça, il faut rester modeste. C'est vraiment aux historiens de dire ça. Et ils le diront bah, avec le recul qui s'impose hein, dans de tels cas. Ce qui est certain, c'est que ce que revendique Trump, c'est vraiment de mettre fin, lui, à ce qu'en gros, ce qu'il appelle le wokisme, hein, qui s'est imposé selon lui ces dernières décennies aux États-Unis, et notamment sous l'impulsion des démocrates. Il désigne comme ennemi tout ce qui est antifa, antifasciste. Il a même essayé de théoriser cette mouvance, pourrait-on dire, en une organisation très structurée, très pyramidale, comme s'il y avait, alors vous citiez le livre de Philip Roth, Le complot contre l'Amérique, qui parlait des années 40, eh bien Trump, lui, n'hésite pas à parler de complot envers donc cette espèce de sphère de gauche, cette mouvance-là. Alors il y voit évidemment comme syndrome très patent, selon lui, le récent assassinat hein, de Charlie Kirk, qui était cet influenceur américain extrêmement pro-MAGA, et donc dont l'assassinat a été suivi d'énormément de manifestations, de grandes messes républicaines, mais pas que républicaines. Il faut quand même bien remarquer que, à juste titre d'ailleurs, ça a quand même secoué la population américaine. Oui, rappelez-vous ce jeune Américain qui avait, pareil, qui était meurtrier il y a un peu plus d'un an d'un grand patron, du grand patron d'une assurance privée américaine. Et c'est vrai que les assurances privées, bah, souvent, c'est le symbole hein, du capitalisme financier américain, ce pays où on n'aime pas que l'État se mêle de financer votre santé, de financer votre bien-être. Et donc l'assurance privée est là pour le faire. Et cet Américain qui a commis ce meurtre, hein, Mangione, et c'est son nom, eh bien, il est devenu une espèce de figure aux yeux de tout un monde comme ça, que Trump dirait alternatif américain. Et c'est, voilà, pour lui, c'est l'un des symptômes de cette, pour le coup, lui, ce serait cette révolution gauchiste, wokiste, antifa, qui est en marche et qui veut absolument réduire. Et il y met les moyens pour réduire cela. C'est vraiment son objectif. Il compare même ce en quoi il voit une organisation au grand criminel, au grand banditisme et au terrorisme islamiste. C'est dire à quel point la Maison Blanche aujourd'hui, l'exécutif américain est focalisé sur cette question. Il demande d'ailleurs au FBI, pareil, qu'il a mis à sa botte, hein, parce que le FBI, il a complètement changé les cadres dirigeants. Il y a effectué des purges là aussi et il leur demande donc de se focaliser bien davantage sur ces mouvements antifa que justement sur la menace terroriste contre les États-Unis.
Henri Vernet, certains observateurs parlent de basculement progressif vers une démocratie illibérale. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression « démocratie illibérale » ?
Elle a justement été pensée, conçue plutôt par des penseurs américains de la fin du XXe siècle. L'idée, c'est que sous les oripeaux de la démocratie classique, hein, c'est-à-dire notamment l'appareil constitutionnel, l'existence d'une constitution qui fonctionne, derrière des élections libres, eh bien, en réalité, vous mettez au pas tout un pays, toute une société. Non pas par le parti unique, parce qu'il y a des démocraties libérales où le multipartisme est tout à fait là, et c'est bien pour ça qu'elle s'appelle encore « démocratie ». La Constitution, malgré tout, elle demeure. Il n'y a pas de censure proprement dite. Et ce phénomène-là, on le voit totalement en Europe. C'est typiquement Viktor Orban, hein, le premier ministre hongrois, qui est élu et réélu. Je crois qu'il en est à son quatrième mandat tout récemment. Et un mandat, c'est-à-dire qu'il a donc gagné les élections législatives et il est resté premier ministre de son pays, avec de forts taux d'élection et de réélection. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Orban, il met au pas dans son pays, bon, finalement, les oppositions en rognant un petit peu leur pouvoir. Il met au pas l'université, il met au pas la justice et évidemment les médias. Et c'est ça qu'on appelle illibéral. C'était également le cas de la Pologne il y a quelques années. Ça pourrait le redevenir. Et c'est au point que ces deux pays, Pologne et surtout Hongrie, ont été mis non pas au banc, mais à l'amende par l'Union européenne, justement parce qu'elles n'en respectent plus les valeurs.
Aux États-Unis, les institutions vous paraissent-elles solides à même de résister au caractère et à la politique menée par Donald Trump ?
Alors, paradoxalement, bon, enfin, moi, je suis vraiment un modeste observateur, hein, et là encore, c'est au fil, et peut-être d'ailleurs après les midterms de 2026, qu'on pourra vraiment voir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, je dirais oui quand même qu'elles sont solides parce que regardez bien des décisions, bien des décrets présidentiels de Donald Trump, eh ben ils sont soumis aux juges. Par exemple, il y a une des manifestations extrêmement importantes de cette tentation autoritaire. Vous savez, c'est son nouvelle agence de contrôle de lutte contre l'immigration illégale, ICE. ICE, c'est-à-dire, vous savez, ce sont ces policiers de plus en plus nombreux, de mieux en mieux équipés parce qu'ils reçoivent des millions, sinon des dizaines de millions de dollars de la part de l'administration Trump, parfois ils déboulent jusque dans les tribunaux pour procéder à des arrestations comme ça. On pourrait dire presque arbitraire. Ils sont impressionnants parce qu'ils ont une casquette enfoncée sur des lunettes noires et un masque sur le visage. Donc, ils sont vraiment destinés à faire peur. Et malgré tout, leurs procédés sont contestés devant de nombreux tribunaux américains. Donc, la justice, elle est encore là, elle agit. C'est le cas également pour certaines décisions de Donald Trump touchant à ces fameux droits de douane, à ces fameuses taxes. Donc, il y a quand même pour l'instant le fameux check and balance. Pour l'instant, il existe encore. Trump n'a pas tout réduit à sa botte. Et les Américains, le citoyen américain, je dirais, quand on l'écoute, il veut encore y croire.
Alors justement, comment comprendre le mouvement No Kings mené par les opposants à Trump ?
Eh bien, exactement par ces raisons-là. Parce que, comme je le disais, les Américains veulent y croire, mais en même temps, ils ont peur. Ils ont la crainte de voir leur démocratie abîmée. Et ce qui est très intéressant avec ce mouvement, bah, deux choses. D'abord, il est extrêmement vaste. Les États-Unis, c'est pas vraiment un pays où on descend dans la rue, c'est pas du tout la France, quoi. Hein, où dès que vous avez une contrariété, boum, on rassemble vraiment des populations impressionnantes dans la rue. Là, c'est pas du tout la tradition américaine. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que pour la première fois depuis des décennies, on a vu des centaines de milliers de gens, de manifestants, dans les rues de Washington, dans les rues de New York, dans les rues de San Francisco, mais pas seulement, partout dans le pays. Au total, il y a eu entre 2600 et 2700 manifestations No Kings le samedi 18 octobre. Et au total, dans tout le pays, ça représentait, selon les organisateurs, 6, 7, voire 8 millions. Alors évidemment, c'est un chiffre qui est extrêmement difficile à vérifier. Ils n'ont pas, vous savez, le système de comptage qu'on peut avoir chez nous. Mais quand même, c'était des millions, ça c'est certain. Mais y compris dans des endroits assez reculés ou ruraux qui ont encore moins l'habitude de tels rassemblements. Et pourquoi tous étaient animés, c'est ça le deuxième aspect intéressant, non pas par une protestation matérielle, comme par exemple on a vu naître en France, rappelez-vous, les gilets jaunes contre une taxe qui voulait être imposée sur les carburants. Non, là, c'est vraiment une manifestation qui, de manière très explicite, est destinée à protéger la démocratie américaine. Et quand on voit d'ailleurs les manifestants, il y avait vraiment tout le monde. C'était pas l'extrême gauche, comme le dit le pouvoir, l'exécutif. C'est vraiment, on a vu des familles, on a vu des gens déguisés, on a vu des jeunes, des vieux, c'est vraiment le peuple américain qui est là et qui veut défendre ce qu'il chérit, la démocratie. Pendant longtemps, c'était quoi les États-Unis ? C'était la démocratie phare dans le monde. C'est quand même ça l'idée, c'est ça le projet américain depuis plus de deux siècles. Et donc, cette idée-là, elle existe. Elle se défend. Pour l'instant, elle n'est pas structurée. Il n'y a pas réellement de leader politique derrière. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fera qu'elle ne durera pas comme ont duré les gilets jaunes en France et qui ont obtenu des choses. Mais c'est quand même un mouvement qui existe. On les entend, les gens. Ils disent « on veut pas de retour au macartisme. On veut pas d'une Amérique autoritaire. On veut pas d'une Amérique qui fait peur. » Parce que tout à l'heure, on l'a évoqué, mais cette dimension quand même de la crainte, de la peur, elle existe. Et ce qui est frappant, c'est que quand vous regardez tous les reportages qu'il y a pu y avoir sur ce mouvement, sur les No Kings, bien sûr, il y a cette démonstration de force, pourrait-on dire, mais il y a également beaucoup de manifestants qui disaient « Non mais attendez, ne citez pas mon nom, parce que soit moi-même, soit mon conjoint, soit mon enfant qui est agent fédéral, eh ben, il pourrait subir des rétorsions. » De même, rappelez-vous, au moment de la mort de Charlie Kirk, eh ben, ceux qui ne déploraient pas de manière ostensible leur peine et leur réprobation, eh ben, certains ont été virés, comme certains enseignants, par exemple. Donc cette dimension-là, elle existe, on l'a vu dans ces manifs, et malgré tout, ce mouvement, il est puissant. Il faudra voir ce qu'il dure et comment il se maintient.
Ce qui est frappant, c'est à quel point jusqu'ici l'opposition à Donald Trump est inaudible. C'est parce que c'est difficile de résister au populisme avec des arguments rationnels. C'est parce que les médias sont fascinés par Trump. Ou bien c'est parce qu'on manque de nouvelles figures politiques, peut-être le futur maire de New York.
Oui, sauf que le futur maire de New York, n'étant pas né américain, il n'a aucune chance de pouvoir un jour prétendre à se présenter à l'élection présidentielle. En revanche, c'est certain que l'élection à venir, tout à fait proche, municipale, donc pour la mairie de New York, ça fournira un test. Hein, si jamais il était élu, s'il battait notamment son rival, qui est beaucoup plus installé, Cuomo, qui est un ancien gouverneur beaucoup plus à gauche, mais beaucoup plus centriste en réalité, c'est vrai que ce serait un signal assez fort. Mais il y a un peu toutes les raisons que vous dites. C'est-à-dire que Trump, il impressionne, il intimide, et donc ce structuré face à lui, donc face au populisme, c'est dur d'avoir des réponses. Surtout que Trump, il a été populiste dans sa candidature, il a été également d'ailleurs dans son premier mandat, et puis à la fin de son premier mandat, de manière incroyable, de manière extrême, avec la fameuse prise du Capitole. Hein. Mais il est également populiste, donc là, dans son action depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, mais il a aussi des résultats, Trump, qui sont indéniables. Regardez, Trump, malgré tout, c'est quand même lui qui a fait bouger les choses en Ukraine. C'est surtout lui qui a obtenu, malgré tout, en tout cas, qui a poussé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza, avec tout ce que cela a comporté. Alors, bien si ce cessez-le-feu est durable et surtout s'il y a un plan derrière qui réellement arrive à une solution politique. En tout cas, c'est vrai qu'il a fait bouger bien des choses. Il a donc ces résultats-là. Alors ça, les Américains, cela dit, la population américaine s'en fiche un peu. La politique extérieure, c'est jamais quelque chose qui les a vraiment intéressés. Mais quand je dis populiste, il y a aussi cette capacité qu'il a à relier ce qu'il fait à l'extérieur à l'intérieur. On voit par exemple aujourd'hui toute son action quand même qui est assez incroyable, la manière dont il se mêle des élections argentines tout récemment en promettant des millions de dollars, voire des milliards de dollars si les Argentins donnaient un score favorable au parti de Milei, mais surtout l'action militaire déstabilisatrice profondément, qu'il conduit au Venezuela et dans une moindre mesure en Colombie, comment est-ce qu'il fait rapport et dit « Mais attendez, moi, en faisant ça, je vous protège, vous, peuple américain, parce que ces pays sont des pratiquent le narcotrafic et donc on va réduire tout cela. » En ce moment, on peut penser aussi qu'il s'intéresse pour le Venezuela à ses énormes réserves pétrolières. Mais donc, il y a ce populisme qui est total, la difficulté d'y résister. Regardez comme les Européens, par exemple, qui sont quand même extrêmement déstabilisé, extrêmement handicapé par les taxes qu'il leur a imposées. Et pourtant, les mêmes Européens, ils paraissent presque aimantés par Trump comme des bestioles dans les phares, dans la nuit. Il y a cette idée-là, mais ça vaut à la fois pour les dirigeants, mais également pour les grands patrons. Regardez comment des grands groupes industriels, pour des raisons économiques, sont allés investir aux États-Unis. C'est le cas, par exemple, tout simplement de Stellantis, le constructeur automobile, tout récemment, qui a décidé de développer tous ses investissements, enfin une bonne partie, une partie importante en tout cas de sa production aux États-Unis pour répondre à cette politique de taxes. C'est vrai aussi pour Sanofi.
Henri Vernet, il n'y a vraiment aucun espoir chez les démocrates de trouver une alternative à Donald Trump ?
Si, parce qu'on voit malgré tout qu'il relève la tête. Donc évidemment que les midterms en 2026 auront un rôle primordial. Est-ce que, alors on citait le cas donc de ce candidat à la mairie de New York, Zoran Mamdani, qui représente alors certes l'aile gauche du parti, donc New York est New York et l'aile gauche c'est quand même vraiment New York. Mais quand même, il incarne bien cette façon aujourd'hui, il est mieux vaut tard que jamais, des démocrates de se réorganiser, pourrait-on dire. On voit aussi certains maires qui sont là, qui sont en première loge, pour s'opposer, par exemple celui de Chicago, qui dit absolument non, pas question, à l'éventualité d'un déploiement de la garde nationale également dans cette grande ville. Grande ville qui, rappelons-le, était quand même le fief de Barack Obama. On voit le gouverneur de Californie qui prend de plus en plus d'importance et qui pourrait se dresser comme une figure assez rassembleuse pour les démocrates. Donc, il y a quand même cette idée que là, trop c'est trop, Trump il est en train d'abîmer notre système, notre démocratie américaine. Maintenant, jusqu'où cela ira-t-il ? Pour les Américains, ce qui est quand même primordial, c'est vraiment l'économie intérieure. Et là-dessus, pour l'instant, il faut bien remarquer que Trump, il peut quand même se targuer de certains succès sur le marché de l'emploi. Alors certes, l'inflation, elle reste haute. Malgré tout, elle n'est vraiment plus au sommet qu'elle avait été sous la présidence Biden. La high-tech qui tire vraiment l'économie américaine, qui est un fleuron. Pour l'instant, là aussi, les États-Unis restent très dominateurs dans le marché de l'intelligence artificielle, dans tous les GAFA sont encore là. Donc tout ça fait que l'économie américaine, elle est encore plutôt vaillante, et tant que c'est le cas, c'est vrai que les démocrates manqueront d'arguments. Ce qu'il faut aussi pour les démocrates, c'est vraiment reconquérir ce qu'ils ont perdu, c'est-à-dire les classes populaires. C'est d'ailleurs assez intelligemment ce qu'a fait Mamdani à New York, même si New York n'est pas réellement l'endroit le plus important des couches populaires américaines, mais quand même, il s'est vraiment adressé aux plus modestes et aux jeunes. Et c'est ça qu'ont perdu les démocrates, pendant des années en tout cas. Donc, il peut y avoir cet espoir-là, mais sans doute que le mouvement, il doit aller au-delà des partis politiques de toute façon, parce que c'est vraiment ce qui importe, c'est un refus qui existe même chez nombre de républicains, d'électeurs républicains, un refus de dévoyer ce qui a fait la démocratie américaine pendant six siècles.
Ce qui se passe avec Donald Trump intéresse l'Europe aussi, parce que des leaders européens sont tentés par une démocratie à la Donald Trump ?
Mais oui, bien sûr. Hein. Vous avez cité le mot illibéral, dont on voit bien qu'il concerne nombre d'Européens. Il concerne également d'autres pays. On voit des tentations illibérales. On parlait de l'Argentine. Au Brésil, ça a existé avec Bolsonaro. Bon, maintenant, c'est Lula. Mais combien de temps cela durera-t-il ? En Israël, sous Netanyahou, on a bien vu ces tentations de réduire, là aussi, le pouvoir judiciaire, hein, il y a 2 ans. Donc, bien sûr que c'est un phénomène qui touche. En Europe, il y a toute une aspiration d'une partie de l'opinion pour des pouvoirs autoritaires.
En France.
Y compris en France, absolument, à longueur de sondage, hein, que ce soit l'enquête Fracture de France dont on parlait dans la dernière émission qui montrait que, notamment chez les jeunes, plus de 40% des moins de 35 ans souhaitent un pouvoir plus autoritaire. Les récents travaux du Conseil économique et social montrent également cette espèce de goût pour sortir d'une espèce d'instabilité politique pour avoir plutôt un système fort. Donc bien sûr, le populisme, il gagne, et l'autoritarisme, pourrait-on dire, il gagne du terrain partout. On voit bien aussi en Italie, hein, Giorgia Meloni, qui a été élue sur de telles aspirations.
Autre question, Henri Vernet, la différence peut-être entre une démocratie et un régime autoritaire, c'est qu'en démocratie, un président de la République cède le pouvoir. Est-ce qu'il y a la tentation chez Donald Trump de rester au pouvoir plus longtemps que prévu ?
Il y en a certainement le rêve, hein, d'ailleurs lui-même parfois. Alors évidemment, il est comme ça, Trump, tout en jouant comme si c'était une plaisanterie. Il l'a lui-même évoqué en disant que ce serait quand même dommage de se priver de ses talents, de son génie à ses yeux après 2028. Donc on peut rien exclure. Est-ce qu'il n'aurait pas l'idée, l'envie de réformer, de refondre la Constitution, d'y ajouter un amendement ? Après tout, c'est ce qu'a fait son ami et modèle le Poutine en Russie, hein, pour perpétuer sa propre présidence. On sait d'ailleurs que ça peut traverser l'esprit de bien des présidents sous différentes latitudes. Donc, qu'il puisse en rêver, oui, mais après, c'est une chose. Hein. D'abord, il sera rattrapé lui aussi par ses artères. Et puis, quand même, encore une fois, la démocratie américaine, pour l'instant, elle existe encore. Elle marche malgré tout sur ses fondements qui sont quand même solides. Donc, il vaut mieux ne pas trop préjuger de tels augures.
Dernière question. Alors, cela peut paraître anecdotique, Henri Vernet, mais Trump a ordonné la démolition d'une aile de la Maison-Blanche pour y bâtir une gigantesque salle de bal. Certains y voient un abus de pouvoir puisque la Maison-Blanche ne lui appartient pas. Hillary Clinton s'est exprimée à ce sujet. C'est encore un signe que Trump peut tout se permettre ?
Bon, c'est un signe de sa mégalomanie, oui, et pour l'instant, il faut bien reconnaître, c'est ce qu'on avait vu au long de cette émission, que sa mégalomanie, elle n'est pas réellement contestée. De même que l'espèce de le nouvel Air Force One qu'il a accepté comme un cadeau d'un pays étranger, là aussi, c'est complètement, a priori, contraire aux habitudes américaines. Vous savez, ce Boeing qui lui a été offert par le Qatar, c'est quelque chose qui n'est pas dans les habitudes américaines. Donc, ça participe, oui, de la même idée. Je ne sais pas s'il y a eu ce film The Apprentice qui racontait l'escalade, enfin la lente, non pas si lente d'ailleurs, l'ascension de Trump depuis qu'il était un jeune promoteur immobilier à New York, et cette espèce de folie des grandeurs qu'il a toujours eu, mais de folie des grandeurs avec tout l'apparat que ça comporte, c'est-à-dire avec les ors, avec le luxe, avec le déploiement comme ça de richesses. Qu'on montre, qu'on fait sauter aux yeux de tous, hein, des Américains, mais également du monde entier, ça a toujours été consubstantiel de la personnalité de Trump, mais également de la politique qu'il a menée. Donc oui, on peut y voir un signe de sa toute-puissance, c'est vrai, et c'est en ça qu'il est vraiment important de rétablir, de faire fonctionner autant que possible le fameux check and balance américain.
C'est la fin de cet épisode de Coulisses politiques. Merci Henri Vernet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. On se retrouve sur Spotify, RadioOrient.com et nos réseaux sociaux. Merci.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.